Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Mur, ouvrage de maçonnerie qui s'élève sur une certaine longueur et qui sert à enclore, à séparer. Un mur, c'est utile pour faire tenir un toit. Mais dans le cas de l'humanité, les murs ont-ils vraiment leur utilité ? Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous recevons Chloé Peterman et Théo Fortunato qui sont venus nous parler des murs ne servent à rien. Un événement dont la troisième édition aura lieu à la Halle de Diolfi le samedi 5 octobre à partir de 14h. Bienvenue Chloé et Théo.
Merci.
Merci.
Chloé, on va commencer avec vous. Quelles sont les valeurs véhiculées par cet événement ?
Alors, les murs ne servent à rien est un événement qui veut surtout informer. Premier titre, mais qui est effectivement un événement qui veut montrer que l'accueil des personnes en exil est possible, que des actions sont possibles, et qui cherche aussi à utiliser différents médias pour parler de cette question migratoire. Donc ça veut dire à la fois des films documentaires, j'ai dans le passé présenté aussi des films de fiction, il y a toujours des lectures, on lit des extraits de livres qui peuvent être des romans, qui peuvent être des récits autobiographiques, qui peuvent être des essais sur ces questions-là. Là, cette année, on présente aussi une émission radiophonique, une installation photographique et sonore. Donc l'idée, c'est d'amener les personnes qui peut-être n'ont pas d'avis ou qui sont relativement peu informées ou déjà beaucoup informées, mais par certains médias précis, à ouvrir le champ et à obtenir des informations sous différentes formes et de pouvoir croiser ces différents médiums pour s'informer.
C'est un événement caritatif qui permet de récolter des fonds pour des associations qui viennent en aide aux migrants. Qui sont-elles et comment les choisissez-vous ?
Alors en fait, effectivement, une fois qu'on a couvert les frais engagés pour organiser une soirée comme ça, les bénéfices qu'on pourra faire grâce au bar, grâce à la restauration, grâce à la participation libre, on va les reverser entièrement à des associations. D'une part, l'association Passerelle, qui est une nouvelle association d'accueil qu'on vient de créer à Diolfi, qui a 6 mois, qui est toute neuve, et qui est une association qui chemine parallèlement à l'association Espoir, qui existe depuis longtemps à Diolfi. Donc ce jour-là, on va déjà récolter, j'espère, un peu d'argent pour cette nouvelle association, dont le but est d'ouvrir un centre d'accueil pour personnes en exil à Diolfi. Donc c'est un objectif, peut-être lointain, parce que c'est un très gros projet de monter un lieu comme cela, mais on commence déjà à récolter un peu de l'argent. On a déjà accueilli une famille pendant 5 mois, en partenariat avec le diaconat protestant de Valence, qui est l'organe qui accueille les personnes réfugiées en Drôme. On a accueilli la famille Armad pendant 5 mois et demi à Diolfi, donc ça a été déjà une façon de former pas mal de bénévoles, de comprendre comment ça se passe l'accueil, de comprendre aussi un peu les rouages administratifs, puisque c'est un petit peu complexe. Maintenant, cette famille est partie à Valence, elle voulait aller à la ville, et donc on se concentre vraiment sur la question de ce centre d'accueil. Donc, des fonds récoltés potentiellement pour ce lieu, pour Passerelle, et on a décidé aussi de soutenir à nouveau, puisque c'est pas la première fois, le refuge solidaire de Briançon, qui est ce lieu qui accueille les personnes qui viennent de traverser la frontière entre l'Italie et la France, donc qui viennent de traverser la montagne à pied. C'est un lieu que je connais bien, où je suis bénévole depuis pas mal de temps, et en qui j'ai entièrement confiance, et où il y a toujours des besoins, puisqu'il y a tout le temps des gens qui arrivent. C'est un lieu d'hébergement d'urgence, où donc les dons servent à préparer les repas, à gérer toute cette maison, qui est un lieu ouvert absolument 24 heures sur 24, où on est toujours prêt à accueillir les personnes.
Les murs ne servent à rien, c'est un programme très complet, avec notamment des documentaires, des lectures, la diffusion d'un reportage sonore. Et tout ça commence par une installation visuelle et sonore. Théo, vous êtes à l'origine de cette installation qui se nomme De l'autre côté. Elle est montrée pour la première fois. En quoi consiste-t-elle ?
Alors oui, on est deux à l'origine de cette installation avec Suzy Chaton qui elle s'est occupée plutôt du côté photographie et veille d'articles, puisque c'est une installation qui mêle à la fois photos, interviews de migrants sur différents lieux d'accueil de migrants, interviews de migrants et de bénévoles volontaires sur différents lieux en Europe, donc de l'Italie en Grèce en passant par les Balkans. Et l'idée de cette installation, c'est de rendre compte d'un voyage et d'amener les spectateurs justement à voyager avec une question qui est celle de la rencontre entre une jeunesse occidentale européenne qui n'a jamais autant voyagé et qui rencontre dans le sens inverse des migrants qui se retrouvent souvent refoulés à des frontières parce que les frontières n'ont jamais été aussi militarisées, c'est un peu une contradiction. Et c'est une histoire de rencontre entre ces jeunesses qui se retrouvent parfois dans des mêmes endroits, l'une en quête d'autres manières de vivre, ou parfois de redonner du sens à leur vie, et l'autre parfois en fuite, ou en tout cas en quête parfois d'un Eldorado aussi, en Europe.
En quoi cela va consister, cette installation ?
Alors c'est une installation concrètement sur laquelle on retrouve des photos, des interviews, les gens sont amenés à passer d'une salle à l'autre, et à passer du coup d'un pays à l'autre, d'une frontière à l'autre, d'actionner certains objets du coup pour libérer des paroles, en tout cas pour entendre ces interviews et entendre des paysages sonores. Donc voilà, mais qui mêle à la fois du coup photos, sons, objets, et l'idée c'est d'amener les gens à faire ce parcours. C'est un parcours en fait.
D'accord, très bien. C'est un format plutôt atypique. Pourquoi vous avez choisi ce format pour présenter cette idée ?
L'idée, c'est aussi de toucher des personnes qui ne seraient pas forcément directement touchées par la question des migrations et qui pourraient du coup être intéressées par l'aspect ludique aussi derrière cette installation. C'est-à-dire que des gens qui auraient envie, ne serait-ce que de faire le parcours parce qu'il y a un côté ludique, comme je le dis, pourraient du coup être sensibilisés à ces questions-là. Et en même temps, ça permet une réelle immersion et de faire de vraies rencontres au cours du parcours, c'est-à-dire ne plus voir ces migrants comme une masse dont on parle beaucoup dans les médias et qu'on entend, mais comme véritablement des personnes. Et il y a un attachement qui se crée à certaines personnes au fur et à mesure du parcours, un attachement qui est aussi celui des bénévoles qui passent beaucoup de temps auprès de ces personnes-là. Et du coup, à la fois, il y a un côté ludique et de l'autre, il y a un côté qui permet un peu plus l'immersion et l'interconnaissance entre les personnes qu'on rencontre tout au long du parcours.
Chloé, on revient à vous. Au-delà de l'événement, vous êtes très investie dans la cause de l'immigration. Vous avez notamment écrit une lettre au président qui a été publiée dans Libération. Pourquoi cette lettre et quel en était le sujet ?
Alors, cette lettre, elle est née d'un sentiment fort d'agacement, on va dire. J'étais dans ma cuisine et j'écoutais France Culture. Et j'ai réentendu pour la cinquième fois dans la journée ou dans les deux jours qui précèdent les mots que M. Macron a évoqué en disant qu'il fallait qu'on soit capable de voir, de regarder l'immigration en face, en disant que, bref, j'ai pas envie de ressortir sa rhétorique. En tout cas, moi, j'ai extrait cette phrase, regarder l'immigration en face, et je me suis dit, mais en fait, regarder l'immigration en face, je pense que nous, les solidaires et nous, les associatifs, on le fait depuis bien longtemps, et on le fait sûrement beaucoup plus que M. Macron. Et du coup, voilà, c'est comme ça, hein, quand on a un peu la rage, on se dit, bon, il faut en faire quelque chose, et donc je me suis mis sur mon ordi, j'ai écrit cette lettre, où j'essaye un peu de décrire ce que c'est le quotidien des personnes solidaires, à la fois dans les associations, dans les lieux d'accueil, dans les collectifs, dans les squats, où nous, on vit un quotidien, en fait, avec ces personnes, exactement comme disait Théo, pour nous, tout tous ces gens, ce sont des personnes avec qui on passe du temps, qu'on rencontre, qui ont un prénom, qui ont une vie, qui ont un passé, et qu'on rencontre des fois sur un temps très court, parce qu'au refuge, on les accueille un jour, une nuit, et le lendemain matin, ils reprennent un train, et des fois, sur des semaines, on les connaît beaucoup plus longuement, comme quand on fait du logement, enfin de l'accueil citoyen, et qu'on accueille des personnes chez nous, et que ça devient vraiment des colocataires, voire des amis, mais il y a aussi des gens que j'ai rencontrés au refuge ou ailleurs, avec qui j'ai un lien depuis des mois, mais un lien par WhatsApp, par Facebook, où on s'appelle, on s'envoie des photos, on reste en lien, on prend des nouvelles des personnes. Et ça, c'est vraiment voir les personnes en face, justement. Mmh. Donc voilà, cette lettre, elle est née de ça. Et finalement, ben, j'ai eu beaucoup de chance, puisque Libération a accepté de la publier. Et donc, ça donne un autre écho. Et visiblement, des retours que j'en ai, elle a tendance à remotiver les personnes solidaires. Donc ça, au moins, c'est ça de gagner, même si ça ne va pas changer le monde. Ça, j'en ai bien conscience.
Une très belle lettre, en tout cas. Je vous invite à lire.
Merci.
Parler de liens directs, et en effet, vous avez réalisé au refuge de Briançon, avec Pauline Lemaire-Desmarais de Radiola, le documentaire sonore qui sera diffusé lors de l'événement. Pouvez-vous m'en dire plus, et pourquoi spécialement le refuge de Briançon ?
Alors, ce reportage radio qui s'appelle Passer la porte, il est né du fait que, et on se connaît très bien avec Pauline, que Pauline sait que je vais depuis pas mal de temps à Briançon, et l'idée est venue qu'elle me rejoigne là-bas une fois pendant une de mes semaines de bénévolat pour qu'on essaie de capter un peu la particularité de ce lieu. C'est un endroit quand même très particulier, enfin que moi je trouve très particulier, du fait que c'est une véritable maison. C'est vraiment un lieu où il y a une pièce de vie, les chambres à l'étage, la salle de bain en haut et le bureau d'accueil où les personnes... Moi, je travaille à l'accueil quand je suis là-bas, donc on reçoit chacune des personnes qui est arrivée pendant la nuit pour faire un petit point sur sa situation. Mais on sent vraiment cette chose de la maison, de l'accueil. Et donc, on s'est toutes les deux... on est parti en quête avec nos micros de... recueillir la parole des personnes en exil, mais aussi des personnes bénévoles, pour essayer de comprendre d'où ce titre, Passer la porte, essayer de comprendre comment est-ce qu'on arrive à passer la porte de cet endroit, y rentrer, à la fois si on arrive d'Italie, mais aussi si on vit à Briançon ou tout à fait ailleurs, parce qu'il y a plein de personnes de France et d'Europe qui viennent pour faire du bénévolat dans cet endroit. Comment on finit par passer la porte du refuge ? Voilà.
J'ai entendu dire notamment que c'était un peu délicat de recueillir la parole des migrants. Quels ont été les problèmes que vous avez rencontrés ?
En fait, la chose essentielle, c'est une forme de lassitude. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui arrivent en ce moment, ou depuis quelques mois à Briançon, c'est des gens qui sont en Italie depuis déjà longtemps. C'est plus des personnes qui sont descendues des bateaux il y a un mois ou deux. C'est des personnes qui ont passé 6 mois, un an et demi, 2 ans parfois, déjà dans un campo italien. Ça veut dire elles ont fait leur demande d'asile, elles ont déposé leur demande d'asile en Italie. Elles n'en peuvent plus d'attendre, de pas avoir de réponse, ou alors elles ont été déboutées en Italie, évidemment ça peut aussi arriver, et elles quittent l'Italie parce qu'elles n'en peuvent plus, et entre-temps souvent elles ont été interviewées des fois, beaucoup de fois, par des journalistes, par différents organes de presse, par la télé, par la radio, par les médias papier, et on sent vraiment pas du tout une appréhension ou une détestation, simplement un recul, quoi, quand on arrive avec le micro, ou d'ailleurs souvent on n'arrive pas avec le micro. Moi j'essayais de parler aux personnes avant, leur demander est-ce que tu serais ok, on voudrait faire une interview, est-ce que tu pourrais nous parler de cet endroit, sachant que nous, avec Pauline, justement, notre angle n'était pas « Raconte-moi ton histoire pour la énième fois, parce que c'est bon », c'était plutôt que eux nous parlent du refuge, c'est-à-dire de la vision que eux ont de cet endroit. Mais même ça, en fait, c'est-à-dire le fait d'être enregistré, d'être de nouveau questionné, on sentait une lassitude. Les, les hommes, je dis les hommes parce que c'est essentiellement des hommes qui sont là-bas, on sent qu'ils n'ont plus envie. Et il n'était pas évidemment question de forcer quoi que ce soit, donc on a voulu retomber sur nos pattes, vu qu'on était là avec nos enregistreurs et nos micros. Et Pauline a eu l'idée qu'on organise un concours de chansons. Parce qu'en fait, quand on est au refuge, on voit combien la musique est très présente dans le parcours des personnes en exil, avec les téléphones. Évidemment, ils ont des écouteurs, ils écoutent beaucoup de musique, ils ont aussi des téléphones qui permettent d'écouter la musique fort. C'est vraiment un lieu où la musique est très présente. Et donc, on a donné rendez-vous à tout le monde. On a fait passer le mot ce soir après le repas à tout le monde dans la salle de vie. On va vous enregistrer avec les micros, avec la perche et tout. Et ça a très très bien marché en fait. C'était une soirée magnifique. Et on a beaucoup ri et il y avait vraiment une ambiance enflammée quoi. C'était chouette.
Et donc tout le monde pourra venir découvrir ça.
C'est ça.
Le 5 octobre. Je vais continuer avec le nom du projet. Souvent, ils ont une signification ou une origine qui n'est pas toujours évidente si on n'y fait pas attention. Est-ce que c'est le cas pour Les Murs ne servent à rien ?
Alors, Les Murs ne servent à rien, ce titre, il est né quand on a monté le projet pour la toute première fois, parce qu'en fait, le projet original de cette histoire, il a eu lieu à Genève. C'était une énorme expo d'art contemporain sur les questions de migration, auquel on avait rajouté la nuit de film et la soirée de lecture. Et cette phrase, c'est un extrait d'une phrase qui était dans un des documentaires qu'on a passé à l'époque. Et cette phrase, elle est dite, c'est paradoxal, par un membre de la Guardia Civile qui dit que les murs ne servent à rien face à des mecs qui ont déjà fait des milliers de kilomètres. Et il est bien placé pour le savoir, puisque cette frontière de Melilla en Espagne, malgré les lignes qu'on rajoute de barbelés, elle continue à être traversée par des mecs qui considèrent qu'ils n'ont plus grand-chose à perdre et que de toute façon, leur objectif, il est ici. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, les murs ne servent à rien.
Mais qui emprunte du coup, pour compléter ce que tu dis, des routes de plus en plus dangereuses.
Exactement.
Et c'est surtout ce qui se passe donc, autour de toutes les frontières. Je pense à Briançon, en Espagne, en Italie, en Grèce. En fait, le fait de renforcer ces frontières, ça n'empêche pas les gens de les passer, mais par contre, il y a de plus en plus de risques à ce qu'ils y perdent leur vie, parce qu'ils passent par des chemins de plus en plus difficiles. Et en effet, quand il y a quelqu'un qui arrive en Italie, qui arrive à la frontière, Briançon, avant Briançon, qui a traversé la Libye, la Méditerranée pour venir jusque-là, c'est pas... La police aux frontières qui va le faire reculer et il va se dire je vais faire demi-tour et je vais rentrer chez moi. Il va passer, il va risquer sa vie. C'est tout ce que ça change.
Oui, tout à fait.
Donc,
d'autant plus que pour ce qui est de la Méditerranée, c'est quand même hallucinant. Maintenant, on en est quand même arrivé à un point où, de toute façon, la Méditerranée, c'est un immense obstacle évidemment à traverser, mais sauf que maintenant, sciemment, on ne fait plus de sauvetage en Méditerranée ou presque. Donc ça veut dire que il y a quand même une politique de l'Europe qui vise à restreindre les interventions en mer. Donc ça veut dire que on accepte que des gens meurent en Méditerranée juste pour pas les laisser venir, quoi.
Donc si on devait donner un mot de fin pour vous, Théo et Chloé, les murs ne servent bien à rien.
Carrément.
Ou alors à soutenir des politiques criminelles.
Bon on va finir là-dessus. Pour rappel. Les Murs ne servent à rien, c'est samedi 5 octobre à partir de 14h à la Halle de Diolfi. C'est prix libre et tous les bénéfices seront reversés à Passerelle et au Refuge solidaire de Briançon. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur l'événement Facebook Les Murs ne servent à rien. Merci beaucoup Chloé et Théo.
Merci à toi.
Merci Étienne.
À bientôt.
À bientôt. I'm
la Pona y bula bla tiela ro pona de tiela Pona ga tiya pona ko ti na segi mo ko segi furo juguni fure kana jitu bala bala sabali ni bala kunu male male Nongo furo goro bande marosa Faulo le mande mori la baulo le mani mori la Mande mori edu so de ri fengela fala
Radio La.media.